Bonjour Valérie Beaudoin.
Bonjour Paul.
Le sommet du G20 se tenait en conférence, en téléconférence ou de façon virtuelle en fin de semaine. Donald Trump, président encore des États-Unis jusqu'à midi le 20 janvier, hein, ça c'est très précis, participait donc au G20. Quand est arrivé le temps de parler de la pandémie, qui était le thème central, il a dit « bye bye tout le monde » puis il est parti jouer au golf.
Oui, c'était la première journée de cette conférence assez particulière, en virtuel avec les leaders du G20. Il était là pour l'introduction, la première session. Il a parlé de son bilan à lui. Il a dit qu'il était très heureux, très honoré d'être avec tous ses leaders à l'international et qu'il allait continuer de travailler avec eux pour longtemps. Donc ça donnait le ton déjà. C'était en cohérence avec ce qu'il dit au niveau national. Après ça, on avait une session avec Macron, entre autres, où on parlait de la pandémie. Et les États-Unis en ce moment, Paul, tu le sais très bien, c'est extrêmement touché par la pandémie. On a quoi franchi le 12 millions de cas aux États-Unis?
Exactement, 12 millions de cas.
Plus de 250 000 morts. Alors, et pourquoi il a décidé d'aller jouer au golf? Les gens se l'expliquent mal. Parce qu'il est encore président, tu l'as très bien dit, pour quelques semaines. Alors, c'est toujours lui qui dirige les États-Unis. Est-ce que ce matin, il semblait, selon Twitter, être là pour les prochaines rencontres? Mais on verra aussi s'il va quitter plus tôt.
Mais sa croisade pour tenter de faire reconnaître que l'élection était truquée, qu'on l'avait volée, que c'est lui qui était le grand gagnant. C'est une entreprise maintenant qui suit échec par-dessus échec. Hier, un juge de la Pennsylvanie, Valérie, a dit le gagnant en Pennsylvanie, c'est bel et bien Joe Biden, et c'est une défaite de plus pour l'actuel président.
Ouais, la Pennsylvanie, qui on le sait, hein, était essentielle pour la victoire de Donald Trump s'il comptait accéder à la Maison Blanche là dans les derniers calculs qu'on avait fait. Le juge qui a dit non seulement la victoire c'est Joe Biden selon ce qu'on a comme chiffres, mais ce que vous me présentez, il a dit ça aux avocats, il y a aucun fondement juridique et il y a pas de preuves tangibles. Alors il a été vraiment très sévère. Et Paul, la réaction du camp de Donald Trump a été la suivante. On a émis un communiqué en disant « Merci, monsieur le juge, d'avoir donné cette décision aussi rapidement. Ça va nous aider à accélérer le processus pour se rendre en Cour suprême et finalement avoir raison. » Alors, on voit, là, ils ont tourné ça à leur avantage en disant « Ben, tant mieux si c'est réglé aussi rapidement. On va se rendre en Cour suprême et oui, ouais, on va gagner la Pennsylvanie. »
Oui. Mais un peu plus tôt, avant la Pennsylvanie, on avait eu la confirmation des résultats en Géorgie.
Oui, tout à fait. La Géorgie qui a certifié ses résultats, la Pennsylvanie qui doit quand même les certifier demain, je vous rappelle, ainsi que le Michigan. Et la Géorgie, ce matin, on a appris que Donald Trump a demandé officiellement un autre recomptage. Il est en droit de le faire. Il y avait jusqu'à mardi pour le demander. On vient de le faire de façon manuelle pour les 5 millions de votes. Et là, ça va être un autre recomptage qui va être automatique cette fois-ci. Alors, même si c'est certifié, il y a toujours une possibilité de le faire parce que le pourcentage entre les deux là est moins de 0,5% là. Alors, c'est vraiment très, très petit la différence.
Parlons du livre de Barack Obama ou de la brique, parce que moi je l'ai reçu ici dans sa version française qui paraît chez Fayard, Terre promise, Promised Land. Comment vous l'aimez là, ce livre?
Écoutez, il aurait pu être plus court. Ça, c'est ma première critique parce que Barack Obama écrit extrêmement bien. C'est son troisième livre. Il en avait écrit avant même d'être président. Ça, c'est le premier de deux volumes. Alors, pour les gens qui trouvent ça décourageant, autour de 800 pages, il va en avoir un autre. Alors, préparez-vous parce que ça arrête en 2011. Le livre termine avec on prend la décision d'assassiner finalement Oussama Ben Laden. Ça termine comme ça. Donc, dans ce livre-là, moi, j'ai trouvé ça très intéressant, surtout le côté personnel où il parle de sa démarche pour se rendre à la Maison Blanche, ses réflexions par rapport à ses adversaires politiques. Mais c'est quelqu'un, dans la vie, il se l'est déjà fait dire, que parfois, il utilise trop de mots pour dire quelque chose de simple. On a l'impression que c'est un peu ça dans le livre par moment, en voulant être sûr de bien justifier chacune de ses décisions et aussi de remercier chaque personne. Alors, il va remercier vraiment des conseillers, même juniors, qui l'ont aidé dans un discours ou autre chose. Alors ça, c'est quand même honorable de le faire, mais ça rend la lecture, je vous dirais, assez longue. Mais c'est très bien écrit et c'est intéressant pour comprendre comment ça se passe, les coulisses et dans un contexte de transition. Au début du livre, au début de sa présidence, il explique comment George W. Bush lui a tendu la main, l'a aidé à faire une bonne transition, malgré le fait qu'il avait bâti Barack Obama sa campagne en disant que George Bush avait fait un mauvais travail et que l'économie était dans un état lamentable.
Et il ne faut pas oublier que Barack Obama lui-même, Valérie, en novembre 2016, a été très rapide à recevoir au bureau Oval, à la Maison-Blanche, Donald Trump, le nouveau président, et il aurait pu lui accorder seulement quelques minutes. Il a gardé le nouveau président pendant 50 minutes, finalement.
Oui, la porte-parole de la Maison-Blanche qui a dit hier ou avant-hier là, que finalement, Donald Trump n'avait pas eu le droit à une bonne transition normale. Et là, il y a des clips qui circulaient un peu partout de Donald Trump, justement, à son assermentation, qui remerciait personnellement Michel et Barack pour une transition tout en douceur, en utilisant les mêmes termes. Alors vraiment, là, ça, c'était, je pense, pas un bon argument de la part de la Maison-Blanche pour justifier tout ce qui se passe en ce moment.
Ce qui est agréable dans ces livres, c'est qu'on en apprend un peu plus sur ce qu'ils pensaient, ce que ces politiciens pensent de leur vis-à-vis, c'est-à-dire lorsqu'ils voyagent à l'étranger et tout ça. Et Barack Obama, il ne pèse pas ses mots. Je pense que la critique la plus dure, c'est à l'endroit de Sarah Palin. Rappelez-vous Sarah Palin, oui, qui était partie de l'Alaska et qui était colistière de John McCain lorsque le duo a affronté Biden et Obama. Il dit de Sarah Palin, qui je crois était gouverneure de l'Alaska aussi,
oui, hein, c'est tout ça? À fait.
Il dit de Sarah Palin qu'elle n'a jamais su de quoi elle parlait. C'est-à-dire qu'une parfaite idiote.
Oui, et que John McCain, peut-être, s'il savait où ça s'en allait, cette nomination à la candidate à la vice-présidence, aurait peut-être choisi quelqu'un d'autre, mais que ça avait donné quand même un push à sa campagne parce que les projecteurs étaient vraiment sur cette femme-là qui sortait un peu de nulle part. Mais le fait que c'est grâce, c'est peut-être pas le bon terme, mais en raison de sa présence qu'on a commencé à douter que Barack Obama était bel et bien né aux États-Unis. Alors, toutes les théories du complot, le mouvement Tea Party, ça, c'était tout autour de Sarah Palin. Alors, on sent qu'il y a encore beaucoup, beaucoup d'Américains de la part du président Obama.
Alors, le temps file. Valérie, on va surveiller, en fait, tous ceux qui surveillent la scène américaine. C'est une semaine cruciale, cruciale. La pandémie est, on peut le dire, hors de contrôle. On a donné quelques statistiques. Et Richard Châteauvert nous a rappelé, Valérie, que les Américains, dans l'ensemble, comptent quand même célébrer l'action de grâce jeudi, impliquant des déplacements massifs à travers le pays. Il y avait déjà 1 million de personnes qui avaient voyagé en avion vendredi seulement.
Ah oui, on le sait, on bat toujours des records à chaque année. C'est la journée où on voyage le plus aux États-Unis. Qu'est-ce qui va se passer? J'ai déjà vu des images de certains aéroports où on voyait quand même énormément de personnes par rapport à ce qu'on voit d'habitude, où c'est presque désert. Donc, on a l'impression que les gens prennent peut-être ça un peu à la légère. Est-ce qu'il y en a qui vont voyager pas de façon aérienne? Ils vont prendre la voiture pour être peut-être plus prudents. Mais vraiment, avec la crise actuelle, tu l'as bien dit tantôt, ça va pas bien aux États-Unis. Et oui, malgré les traitements, les vaccins qui s'en viennent, la pandémie, c'est quand même 12 millions de cas jusqu'à maintenant.
Mais oui.
Ça va pas aider là, le bilan, surtout qu'on bat des records de nouveaux cas là, dans les dernières semaines. Vendredi, je crois qu'on frôlait le 200 000 cas là, dans la journée, imaginez.
Et parlant de médicaments et de vaccins qui s'en vient, là, c'est important quand même de le dire, la FDA, Food and Drug Administration, vient d'approuver le fameux Regeneron. Et Valérie, Donald Trump, lorsqu'il a eu la COVID-19, a vanté ce médicament.
Oui, un de ces cocktails qu'il a eu, qui lui a donné l'énergie de continuer et de combattre la COVID-19. Donc, on verra comment ça va être distribué aux gens, de quelle façon, parce que c'est jamais simple avec des médicaments comme celui-là. Mais ça avait aidé grandement, de ce qu'on en sait, le président Trump qui a été atteint de la COVID là, il y a quelques semaines déjà.
Et maintenant, c'est son fils, Donald Jr.
Oui, voilà.
Alors, merci beaucoup, Valérie. Bonne semaine.
Merci, bonne semaine.